présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Fort lui répond
« Oui, amenez-le en France, qu'on fasse tout ça. »
Le primat des Gaules a une idée. Il demande une audience à Donetti pour lui proposer de représenter l'Italie pour les cérémonies à la gloire du Saint Curé d'Ars. Donetti accepte de le recevoir dans son bureau. Dans son bureau qui est au Vatican, car il est chargé des affaires sociales. Pour un homme de droite, c'est très bien. Va être reçu par Donetti.
entrée. Cette entrée. Pas dégoulante. Venez vous asseoir.
Je vous écoute. Bien voilà, monseigneur, comme vous parlez merveilleusement bien le français et que vous aimez ce pays, j'ai pensé que vous pourriez représenter les cardinaux italiens. J'ai demandé l'autorisation au pape et il est d'accord. C'est pour les cérémonies en l'honneur du Saint Curie d'Ars, Donati lui dit. Je vous remercie, cela me touche beaucoup. J'accepte avec joie. J'ai fait une partie de mes études à Paris et j'aime beaucoup votre pays. Oui, j'accepte avec joie. C'est pour quand ? Dans un mois, le 10, et je viendrai moi-même vous chercher à 10h du matin. Un avion privé vous mènera à Satelas, près de Lyon, puis une voiture vous conduira à Ars. Tout est prêt, une chambre à votre disposition, et pour les cérémonies, vous n'aurez pas de soucis à vous faire, je serai constamment près de vous, et vous n'aurez pas d'allocution à faire, à moins que... Donati lui dit, pour vous remercier, je dirais bien un petit quelque chose sur le curé d'Ars. Merci, votre seigneurie. Je vais vous faire parvenir les documents des déroulements de la cérémonie.
Elle se terminera à quelle heure ?
À 22h, car le soir, il y aura une petite représentation théâtrale sur la vie du Saint Curé d'Ars, jouée par les comédiens de la ville. Le primat de Gaulle est venu chercher Donati pour le mener à l'aéroport. Là, il va prendre un vol privé jusqu'à Satelors. Satelos, une voiture les a pris pour les mener à Ars, où il y a vraiment une fête en l'honneur du curé d'Ars. Une fois arrivé à Ars, la voiture s'est arrêtée devant un hôtel. Le primat lui dit, j'allais pouvoir vous rafraîchir un peu dans votre chambre. Après, vous irez voir les autorités. Ils sont sortis de voiture
Hôtel 4 étoiles est en dehors de Arles. C'est une ancienne grande demeure. Arrivés à l'hôtel, une dizaine d'hommes qui sont des gardes du corps les mènent à leur chambre. Leurs chambres sont l'une à côté de l'autre.
Le directeur de l'hôtel fait entrer Donetti dans sa chambre. Voici votre chambre, votre seigneurie. Grande pièce, Louis XV. J'espère qu'elle vous plaira. Voici la salle de bain. Si vous avez besoin de quelque chose, vous sonnez. Et le directeur se retire. Au revoir, votre seigneurie. Au revoir. Donetti, une fois seul, entre dans la salle de bain. Ferme la porte. Tout à coup, une fumée envahit la pièce. Donetti manque de sous. Et tombe à terre.
Il perd connaissance. Un quart d'heure plus tard,
on frappe à la porte de la chambre. Pas de réponse. L'on entre. C'est le directeur de l'hôtel. Monseigneur Donetti, il est l'heure. Il est l'heure d'y aller. Il va vers la salle d'eau. Monseigneur, c'est l'heure. Monseigneur, c'est l'heure. Pas de réponse. Ouvre la porte. Oh, mon Dieu! Il voit apparaître derrière lui le primat des Gaules. Que s'est-il passé? Le directeur lui dit. Monseigneur a l'air d'être évanoui. Laissez-le. Je vais faire venir le médecin de la cérémonie. Et le primat sort. Le directeur reste sans rien faire. La porte est ouverte. Revient le primat avec un médecin, un grand homme chauve et costume gris, et une serviette. Il se penche vers Donetti et dit : c'est une attaque, vite, c'est urgent. Il faut l'amener à l'hôpital. Le premier dit, je vais chercher les ambulanciers. Il s'en va. Il revient que ces ambulanciers étaient déjà là. Ils ont un brancard. Mettez Monseigneur sur le brancard. Le mettre sur le bancard et le sorte pour le mettre dans l'ambulance. Le primat des Gaules dit au directeur de l'hôpital, surtout ne dites rien à personne.
Cela pourrait porter outrage à la France.
Et il sort de la chambre.
Thank you. Le primat téléphone à Paris, au laboratoire. Allô ? Laboratoire Riquin ? Bonjour, j'aimerais avoir monsieur. Riquin, c'est très urgent. Merci. Allô ? Monsieur Riquin, c'est pour vous dire que ça y est. Ils viennent de partir maintenant. Vous pouvez préparer la chose. Bien, je vous remercie.
Vite, Riquin, faut préparer la salle d'opération. Emmener le cerveau de Guillaume. Lui mettre du sang, de l'oxygène et de l'ADN. Et attendre.
Dans l'ambulance, Donetti dort encore. On lui a injecté des produits pour l'endormir encore plus. On lui tond les cheveux, prise de sang, lui prend son ADN, analyse de toutes sortes, électrocardiogramme, tension, etc. Lorsque l'ambulance arrive au laboratoire, les analyses sont faites. La tension prise. Il est endormi, prêt à être opéré, tondu, goutte à goutte, ADN prélevé. Vite, on le met dans la salle d'opération, où tout est déjà préparé. On le met sur la table d'opération. Il était déjà déshabillé, en tenue d'opérer, en sortant de la voiture. Dans le brancard, il y a déjà eu le goutte à goutte et l'oxygénation, ce qui fait qu'il est prêt à avoir le coup de bistouri. C'est ce que fait Riquin. Il donne un coup de bistouri en croix sur le haut du crâne. Avec des pinces, il lève les ouvertures et les fait maintenir avec les pinces. Le vide-brequin pour ouvrir le crâne. Une fois le trou fait, élargi, il coupe les artères qui étaient reliées au cerveau, les nerfs aussi, sort le cerveau, le met dans un récipient. Deuxième équipe relie les artères et les nerfs avec de l'oxygène et du sang au cerveau. Puis, il relie le cerveau à un ordinateur. Pendant ce temps, on met l'ADN du cardinal dans le cerveau de Guillaume et celui de Guillaume dans le corps du cardinal. Ensuite, on pose le cerveau. On le relie aux artères et aux nerfs. On met à fond de l'oxygène et du sang. On relie par un fil électrique le cerveau à l'ordinateur. Puis on ferme le crâne. Ce qui fait que le cardinal a le cerveau de Guillaume à l'intérieur de lui. L'ordinateur a d'un côté les informations qui lui viennent du cerveau du cardinal. Il les envoie au cerveau de Guillaume, qui doit recevoir la mémoire et le savoir du cardinal. Le cerveau de Guillaume est à l'intérieur du cardinal. J'espère que vous avez compris. Un homme va poser des questions sur la vie privée et publique au cerveau du cardinal. Questions très intimes et très publiques. Le plus de questions possible. Et les réponses seront traduites au cerveau de Guillaume. Ce qui fait que le cerveau de Guillaume aura les informations que lui a donné le groupe Jeune Tout et ses goûts, plus les goûts et la vie du cardinal. Comme sera, il sera le cardinal avec son passé, ses goûts et en plus ceux du groupe. Bon, en résumé, il y a entre le cerveau du cardinal et le cerveau de Guillaume, qui est à l'intérieur du cardinal, un homme avec un ordinateur qui pose des questions au cerveau du cardinal. Ces questions sont codées, envoyées à l'ordinateur, et l'ordinateur, enfin questions et réponses, et l'ordinateur envoie au cerveau de Guillaume les réponses et les questions pour qu'il puisse avoir des informations sur son nouveau receveur, son nouveau corps receveur, sur sa nouvelle personnalité. J'espère que vous avez compris. Quelques jours pour que le cerveau reprenne des forces. On le revitalise avec de l'oxygène, du sang et un produit de décontraction. Donetti reste inconscient tant que les choses ne seront pas finies. La chose, c'est-à-dire l'éducation de son cerveau. Bien entendu, le pape ne sera tué que lorsque Donetti sera suffisamment rétabli pour retourner à Rome et faire campagne. La famille a été prévenue que Donetti a eu un arrêt cardiaque et qu'il est soigné dans les meilleures conditions et par les meilleurs spécialistes, mais qu'il est dans le coma et qu'il ne lui faut pas de visite, qu'il est aux soins intensifs. Donetti est au goutte à goutte. On lui fait des perfusions, des remontants de vitamines. Il est surveillé 24 heures sur 24. Il ne doit pas avoir les membres détériorés du cerveau et du corps.
pour éviter que les muscles s'ankylosent et fondent, on le masse avec de l'alcool. Le cerveau qu'on lui a enlevé et qui n'est plus le sien est lui aussi très surveillé. Il est bombardé de rayons laser pour éviter qu'il s'arrête, d'oxygène, de sang à fond.
Danfort est inquiet et se dit qu'il va faire disparaître à jamais Guillaume, et si Galien l'apprend, ce sera terrible.
Peut encore arrêter la chose. Tout arrêter et dire que le cardinal est mort d'un arrêt du corps. Mais mettre qui à la place du pape? Et s'il arrête, cela risque de créer une nouvelle croisade contre la France. Des millions de morts. Entre des millions de morts et Guillaume, il n'y a pas de choix. Il faudra bien que Galien le comprenne. Les jours passent. La circulation du cerveau de Donetti semble bien passer. Le cerveau semble en bon état. On décide de faire des essais, de lui poser des questions. Les faits sont semblables à ce qu'on lui a appris.
Le cerveau, petit à petit, répond, même sans avoir besoin de réactions, genre température douce ou piqûre. Ses réponses font partie de lui et de ses goûts. Plus besoin pour s'en rappeler de choses extérieures. La chose est positive. Le cerveau est en bon état de marche. Maintenant, ils font des essais sur l'ancien cerveau de Donetti. On lui pose des questions, on le maintient éveillé par des rayons laser, petit à petit il répond. Alors, on envoie les réponses par l'intermédiaire de l'ordinateur au nouveau cerveau de Donetti qui les reçoit et doit les garder en mémoire. Le matin, c'est l'emmagasinage de réponses. L'après-midi, c'est les questions pour savoir s'il a bien emmagasiné. Les questions sont sur des questions sur ce qu'on lui a appris et sur la mémoire de Donetti. La chose semble se passer correctement. On donne aux deux cerveaux des vitamines pour la mémoire. Les cerveaux ont juste une pause de 8 heures la nuit et le reste du temps, ils sont branchés et ils doivent donner des informations. On leur pose des questions sur tout, même sur leur goût, désir, rêve, sexualité, fantasme, etc., etc.
Thank you.
Les jours passent. On fortifie le corps aussi, massage, musculature, vitamines. Au bout de 3 mois, le nouveau cerveau est mis en mémoire tout ce qu'il doit savoir. On décide d'arrêter. On coupe le cordon entre l'ordinateur et le cerveau. L'ancien cerveau est congelé et conservé. Puis, l'on réveille petit à petit Donetti. On lui fait faire des mouvements réflexes. On lui injecte le sang et l'oxygène. Puis après, une mise en forme de muscle. On réveille le patient par piqûre pour activer le corps et on lui met des décharges électriques. Petit à petit, le patient se réveille.
Il ouvre les yeux, remue les mains. On lui fait faire des mouvements.
Et un médecin vient tous les jours. Pour lui parler, lui poser des questions.
Il est toujours aussi sous perfusion. Le patient ne répond pas au début, puis essaye, a des difficultés à parler. On lui montre des photographies de sa famille, des lieux où il a vécu, de ses amis. On lui fait écouter de la musique qu'il aimait. On lui parle de choses qu'il a connues. Au début, il réagit mal, puis cherche et semble montrer ce qu'il connaît. On lui montre des lettres de l'alphabet, des chiffres. On lui fait épeler des lettres, des mots. Petit à petit, les choses vont de mieux en mieux. Il se rappelle de plus en plus de choses. Petit à petit, il épelle des mots, puis des bouts de phrases, puis des phrases. On lui enlève son goutte à goutte. On lui fait manger de la bouillie, mais la bouillie de choses qu'il aime. Et on lui donne beaucoup d'eau et de jus de fruits. Pour qu'il évacue le plus de choses possible d'impureté, on lui fait aussi des massages.
Puis, la journée, on le fait sortir de son lit, le fait asseoir sur une chaise,
le fait marcher.
Et des mouvements avec les bras. Maintenant, le matin, c'est le corps et l'après-midi, c'est la mémoire. Les choses vont de mieux en mieux. Elle a prévenu la famille qu'il allait mieux et que bientôt, ils pourront le voir. Riquin a prévenu d'Amfort que tout allait bien et que la famille pouvait venir. Mais qu'il fallait envoyer Donetti dans une maison de repos où personne ne demanderait ce qui lui est arrivé et ce qu'on lui a fait. D'Amfort lui envoie une adresse d'une maison de repos dans les Alpes tenue par un de ses amis qui ne cherchera pas à savoir. La maison est très bien au milieu des montagnes.
Je dirais à la famille que c'est les gardiens français qui paieront le séjour.
Avant qu'il ne parte à la maison de repos, on lui fait des tests. Il n'y a pas de rejet. Il répond comme il faut à toutes les questions. Les circulations se sont bien faites. Les cicatrices sont bien fermées. Les muscles du corps sont en parfait état. Tout va bien. Il a été mené en maison de repos en ambulance. La visite de la famille sera très surveillée pour savoir si la mémoire marche bien. Les jours passent. Maintenant, il va falloir passer au plan suivant. Le cardinal Donetti est complètement rétabli et retourné à Rome, au Vatican. Des hommes à D'Amfort font des enquêtes sur les cardinaux pour les faire chanter et forcer à voter pour Donetti. Tous les cardinaux italiens, européens surtout, sont surveillés. On fait une enquête sur leurs comptes en banque, leurs mœurs, leurs amitiés, leurs habitudes. Pour certains, c'est facile. Il suffit de mettre dans leur lit une fille ou un jeune garçon, payer des espions, puis les faire chanter, cassette vidéo cachée dans la chambre, micro, etc. Ils acceptent facilement le marché. Pour d'autres, c'est plus compliqué. On leur annonce que l'on fera baisser leurs actions ou faire sauter leurs immeubles ou leurs usines. Donc, un grand nombre de cardinaux sont prêts à voter pour celui qu'on leur demande. De toute façon, ils s'en moquent parce que ce n'est pas eux. On a aussi prévenu la mafia pour qu'elle espère les prochaines élections. Le nouveau pape fermera les yeux sur ce qu'ils feront. La mafia se taira donc. L'on donne au pape des aliments où dedans se trouvent des produits pour l'affaiblir, en lui bloquant les reins. Ces produits sont mis par le chef cuisinier du Vatican qui lui aussi ont fait chanter pour vol d'œuvres d'art. Le pape faiblit petit à petit. Sa santé se détériore. Les gens ne seront pas surpris d'apprendre sa mort. Il prend le teint jaune, se sèche. Les médecins disent que les reins sont malades, que c'est dû à son âge. Les régimes, le soin ne font rien parce que l'on continue à lui donner du poison qui bloque les reins. Ce temps, les Américains et leurs alliés sont toujours sur le pied de guerre contre la France. Mais ils attendent un signe du pape qui dise s'il est de leur côté ou de celui de la France. Qu'ils disent d'une façon tranchée de quel côté il est. Le pape, lui, ne dit rien, est trop mal en point.
Et faire la guerre en ce moment, ce serait pas trop diplomatique, surtout s'il y a bientôt des élections papales. Vaut mieux donc attendre un peu.
Les cardinaux savent que le pape va mourir, mais ils ne peuvent pas dire que c'est un assassinat causé par la France, à cause du chantage qu'on leur fait. Eux aussi attendent, tout le monde attend que le pape meure et personne ne le dit.
Le cardinal Donetti est courtisé comme il n'a jamais été. On l'invite de partout. Tout le monde veut le voir et veut lui proposer quelque chose. Mettre de l'argent dans une affaire, acheter une nouvelle voiture, maison, etc. Tous les cardinaux lui font la cour et lui disent « Du cher ami, il ne te comprend pas. Tout le monde l'estime, l'entoure, le félicite. » Le comte de cadeaux, de politesse, est devenu l'homme le plus accaparé, le plus courtisé de l'Italie. Le bruit a couru très vite que ce sera lui le prochain pape. Les femmes lui courent après, les banques, les patrons, les ambassadeurs. Lui qui n'avait jamais dit ni demandé à être cardinal, ni candidat, il ne comprend pas. Le primat de Gaulle lui dit, c'est Dieu qui veut que vous soyez pape. Mais je ne l'ai jamais demandé. Et on ne me l'a jamais proposé. Le primat lui dit, c'est la preuve que c'est Dieu. Vous êtes le candidat de Dieu. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a l'unanimité sur un candidat avant les élections. Vous ne pouvez pas refuser. Dieu vous appelle. À une soirée, l'ambassadeur d'Amérique le prend à part. C'est un de gros hommes chauve dans les 60 ans, smoking noir, gros cigare. Et lui dit, quand vous serez pape, soyez de notre côté. Si vous aidez l'Amérique, nous ferons un don important en dollars. Et en plus, nous permettrons d'implanter des nouvelles églises en Amérique. Et vous aurez une chaîne de télévision câblée en Floride pour le monde entier. En plus, un avion supersonique. Défendez notre politique étrangère
attaquer la France contre les expériences et fermer les yeux contre les nôtres. Forcer la France à vous rendre l'ADN de Dieu qui doit rester au Vatican. Qu'en pensez-vous ? Donetti lui dit, je ne suis pas encore pape et ne le serai peut-être pas. Je ne peux pas vous le promettre. L'Américain lui dit, ne vous faites pas de soucis, vous serez pape. Tout le monde le veut.
À une autre soirée, c'est l'ambassadeur de France qui le prend à part. Donetti lui dit, je sais ce que vous allez me dire. Ne vous en faites pas, j'aime beaucoup la France. Et si je suis pape, par hasard, mon corps ira de votre côté. Mais ne dites rien de ceci, car on pourrait m'éliminer. L'ambassadeur est heureux. Donetti se dit, puisque tout le monde veut que je sois le futur pape, je n'ai qu'à obéir. Pendant ce temps, au Vatican, ça sent la fin de règne. Il y a de moins en moins de gens qui vont voir le pape. Personne ne vient lui demander conseil, lui présenter quelque chose. Les salles d'attente sont vides. Le pape reste dans son bureau ou ses appartements seul. Il s'affaiblit beaucoup, mais pas assez pour mourir. Il est assis à son bureau, le téléphone ne sonne plus, le secrétaire ne vient plus le voir pour lui dire qu'on lui demande audience. Il se dit tristement que même la France l'a laissé tomber. La France qu'il a mis ne le veut plus, et dire que c'est à cause de ce sacré sanctuaire. Il se dit que cette chose doit porter malheur. C'est la première fois qu'un pape est délaissé et qu'on prépare sa succession d'une façon si ouverte, si outrageante pour lui. Pour les autres, il est déjà mort, enterré. Et qui est ce Donetti ? Un cardinal quelconque ? Pas mieux qu'un autre ? Alors pourquoi lui ? Il décide de le convoquer. Fait le numéro de son secrétaire. Et lui dit, vous convoquerez son éminence Donetti, disons
demain à 15h à mon bureau.
Donizetti reçoit la convocation chez lui par un coup de téléphone.
Bien, je me présenterai à cette convocation.
Cela l'ennuie d'aller à cette convocation. Et puis lui dire quoi? Qu'il n'y est pour rien si les autres l'ont choisi. Le lendemain, à 15h, il se rend chez le pape.
Le secrétaire l'introduit au bureau du pape. Entrez. Le pape est assis à son bureau. Il ne se lève même pas pour le saluer. Donizetti se dit qu'il doit être très en colère. Approchez. Il s'approche.
Asseyez-vous.
Il s'assoit.
Le pape lui dit :
Je suis très surpris. C'est que vous vous présentiez comme mon successeur. Vous faites campagne comme un vulgaire candidat à une présidence de la République. Je ne suis pas encore mourant, ni mort. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Donizetti lui dit : Votre sainteté, j'y suis pour rien. Ce sont les gens qui ont monté cette histoire.
Le pape lui dit :
Vous jouez bien leur jeu. C'est vous qui êtes d'accord avec eux. Dites-le moi.
Je suis d'accord avec personne. Et puis je ne peux rien faire.
Et vous trouvez normal que l'on parle de ma succession avant ma mort.
Ce ne sont que des propos, ceux des cardinaux. Mais Dieu décide, le pape lui dit.
Je peux, moi aussi. C'est décidé de la personne qui pourrait me succéder. Et je demanderai à mes amis de voter pour lui. Ce sera le cardinal Capone.
Donizetti lui dit : Un cardinal américain ?
Oui, mais d'origine italienne.
Donizetti lui dit : C'est impossible. Il va défendre les intérêts de l'Amérique. Les Américains vont étendre leur empire.
Le pape lui dit :
Et pourquoi pas ? Vous aimez mieux la France. Vous êtes peut-être le candidat de la France. Ils m'ont élu et m'ont trahi. Ils ont voulu l'ADN du Christ pour dominer le monde et transformer tout ce qui est vivant, suivant leur intérêt. Les Français sont dangereux. Les cardinaux sont de sales gauchistes qui défendent les intérêts des ennemis de l'Église. Ils font occuper leur Église par des infidèles et leur gouvernement, au lieu des dessous menés, les défendent pour embêter le Vatican. Les Américains
ont raison de faire une croisade contre la France. J'étais de leur côté, maintenant je suis contre eux. Ils m'ont trahi et veulent vous mettre à ma place.
Donetti lui dit, « Pur hasard, votre sainteté,
qu'avez-vous fait durant tout ce temps en France ?»«
J'étais malade, je suis tombé malade durant un voyage en France. »
Le pape lui dit, « Comme c'est bizarre !»